Il y a 20 ans, Marlène Dietrich s'éteignait à l'âge de 90 ans dans son appartement parisien de l'avenue Montaigne, dans lequel elle vivait recluse depuis une vingtaine d'années. Bonjour Louis Boson.
Bonjour Bernard.
Une des grandes voix de France Inter, de Radio France, donc confident, ami de la star pendant combien ? 35 ans. Hein ?
35 ans, oui.
Vous publiez « Allô mon ange, c'est Marlène ». Chez Michel Lafon, Marlène, qui vous avait choisi parce que vous ne lui parliez jamais, ou en tout cas pas les premiers jours, de l'ange bleu, donc vous n'étiez pas parmi ces gens baba et admiratifs. Vous l'avez connu au fait de sa gloire, puis dans sa période de réclusion. On va commencer rapidement par la gloire, parce qu'il y a quand même quelques anecdotes. Se comportait-elle comme une star tous les jours absolument ?
Pas du tout dans la vie. Avec moi, la première fois que je l'ai vue, j'ai vu une dame simple qui était sans talons hauts, qui avait un manteau de fourrure qui attendait dans le hall alors qu'elle avait rendez-vous pour dîner avec nous, pour qu'on l'emmène quelque part, avec un ami qui me l'avait fait connaître. J'ai trouvé la femme la plus simple du monde qui tapait sur une porte avec un marteau, à qui j'ai dit bonjour, j'ai pris le marteau et puis voilà, on est parti au restaurant. Non, pas du tout, elle n'était pas star du tout. Elle disait toujours, moi, j'adore faire la cuisine et son bonheur, c'était la cuisine. Donc c'était une ménagère. J'ai une femme simple que tu as appelée maquillée. Alors, très sincèrement, j'étais un peu déçu, parce que, enfin, j'ai pas rencontré la star dont je rêvais.
Et une fois, vous êtes dans un taxi, et le chauffeur ne la reconnaît pas, elle, mais vous, parce que vous animiez une émission à la télévision.
Oui, ça, c'est vraiment...
Comment elle l'a pris ?
Ça a été l'horreur. Beaucoup d'humour, parce que, évidemment, il y a eu un moment d'une espèce de flottement, en disant, je suis tellement content de vous connaître, tellement, ça me fait plaisir de vous avoir dans mon taxi. Et puis, au fur et à mesure que la conversation continuait, je comprenais que c'était pas Marlène qui était en jeu, mais que c'était moi. Alors, finalement, elle me donne un coup de coude, elle dit, en anglais, vous devez lui donner un bon pourboire, non ? Et elle a beaucoup apprécié. En même temps qu'on me reconnaisse, et parce qu'elle savait que, de toute façon, si le monsieur ne la reconnaissait pas, c'était un peu sa faute. Parce qu'elle sortait toujours simplement casquette, jean, blouson. C'était pas la star dont on rêvait.
Très simple dans la vie, Louis Boson, mais très perfectionniste dans le métier. Alors ça, en lisant votre livre, on découvre comment elle travaillait ses mises en scène, ses récitals.
Tout. Pas seulement
à
ses mises en scène.
Près, hein.
Tout ce qui était sa vie devait être perfectionné d'une façon étonnante. Ce qui fait que moi, j'ai appris beaucoup de choses avec elle. J'étais italien très, très détendu. À l'heure, juste ce qu'il fallait, mais point trop. Elle, c'était vraiment à cheval sur tous les principes. Ça ne se fait pas, on doit faire ça. Et finalement, elle réussissait à peu près tout ce qu'elle faisait parce que tout était préparé à l'avance, travailler les rôles, n'en parlons pas. La scène, il fallait que les clowns ne dépassent pas, donc elle tapait elle-même.
Elle mettait les roses en haut pour qu'elles tombent à la fin.
Tout.
C'est elle-même qui mettait les pétales de rose en haut,
oui,
hein, c'est ça ?
Parce qu'une richissime anglaise lui envoyait tous les jours 500 roses pour qu'on lui fasse un rideau de roses à la fin. Donc elle faisait descendre tout le système de
les tringles,
je crois que ça porte le manque d'alrequin. Elle le faisait descendre, elle répandait elle-même les pétales pour que soit dans la répartition telle qu'elle le voulait en scène. À ce niveau-là, je crois que je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi perfectionniste. Il paraît que Chevalier était comme ça.
Mais en même temps, très capricieuse.
Oui, parce qu'elle voulait obtenir exactement ce qu'elle pensait devoir pour faire un trait, pour réussir quelque chose. Donc, il fallait que, évidemment, il y ait, quand elle est allée à l'Olympia, je crois qu'il a, ça a failli, le spectacle n'a failli ne pas avoir lieu, car Cocatrice a dit, j'ai jamais vu ça. Moi, Madame Dietrich m'emmerde et je me laisserai pas emmerder par une vieille star. Et voilà, finalement, il a donné à Dietrich ce qu'elle voulait. Comme Cardin, c'est pareil. Elle a dit, je veux bien aller chez Monsieur Cardin et il n'y a pas de rideau, donc je n'irai pas. Alors, eh ben, il a mis un rideau.
Parce qu'il a refait le plancher, le rideau, les numéros des fauteuils, etc. Enfin,
il a dit que c'est ce qui lui avait coûté le plus cher de toute son histoire de théâtre.
Puisqu'on parle d'argent, quel était son rapport, Louis Boson, à l'argent, à Madame Dietrich?
Elle en a tellement eu que le jour où elle n'a plus eu, ça a été un drame profond. Parce que ce que Marlène a gagné, on ne l'imagine pas, parce qu'elle a été vraiment la star la plus payée à l'époque où elle tournait. Elle avait tout ce qu'elle voulait, elle dépensait tout ce qu'elle gagnait, elle achetait toutes les collections des couturiers, et puis évidemment, le jour où elle s'est recluse, c'est-à-dire qu'elle a, dès 76, elle a cessé de chanter, l'argent n'arrivait plus. Car la retraite de Marlène devait être assez belle, parce que quand même, mais ça ne correspondait plus du tout aux sommes, mais gigantesques qu'elle a dépensées. On prétendait qu'elle offrait des cadeaux.
Oui. Et vous avez envoyé une fois acheter 50 bottes la même journée.
Hein. Ah ben oui, c'est
50 paires de bottes. Les plus chères du marché, bien sûr.
Évidemment, qu'elle ne mettait pas, mais il fallait qu'elle les ait. Je ne sais pas si elle les a eues, mais en tous les cas, elle les commandait.
Puisque vous parliez de la période de recluse, en quelque sorte, comment elle vivait, avenue Montaigne, dans les dernières années de sa vie ?
C'est une vie de recluse organisée. Vous imaginez bien qu'elle avait organisé sa vie de recluse pour que personne ne puisse la voir, ou plutôt que plus personne ne vienne la regarder, parce qu'elle me dit « on ne vient pas me voir ». On vient me regarder, ce qui est très différent. Alors, je ne veux pas qu'on me regarde. Alors, il a fallu ce courage.
Bah, pardonnez-moi, parce qu'il y a même un paparazzi qui est venu la photographier une nuit, c'est vrai?
Deux, trois.
Alors, par effraction.
Non, la nuit, c'est le concierge. Elle avait un concierge à qui elle avait donné les clés, qui était un garçon qui évidemment, devait avoir une vie assez différente de ce qu'il était dans le hall de l'immeuble du 12 Avenue Montaigne. Une nuit, elle avait arrivé quelqu'un qui l'a photographié en disant, vous inquiétez pas, je suis un ami du concierge. Et finalement, ça a été l'horreur. Il était 10h du soir. Elle était en train d'uriner, je ne sais pas si vous voyez, donc il y a eu un rouleau qui a été fait de photos et qui a été plus ou moins commandité par Bounté. Dieu merci, un journaliste, il y en a dit non, je ne peux pas laisser publier de telles photos, même dans le journal où je travaille, donc clause de conscience.
Et vous avez servi d'intermédiaire, voilà, pour récupérer le rouleau et brûler la pellicule.
Mais il y a eu deux paparazzi, ouais. Deux qui sont venus en 14 juillet, qui sont très célèbres, ils ont sorti des livres depuis, ils ont été condamnés à payer, ils n'ont jamais payé, et le japonais, le 14 juillet de je ne sais quelle année, a sauté carrément dans sa chambre. Alors pour elle, c'était une agression dont elle ne se remettait pas. Je pense que la décadence physique de Marlène a commencé quand il y a eu ces agressions chez elle, elle se sentait vraiment attaquée.
Il n'y a pas de photo d'elle. Il n'y avait pas de photo d'elle.
Il y en a une qui a été prise par.
Non, mais je veux dire, elle n'avait pas de photo d'elle chez elle.
Ah non, elle avait les photos de ceux qu'elle aimait, de sa fille.
Voilà.
Et alors, chez elle, dans le salon où elle n'allait plus jamais puisqu'elle ne se levait plus, il y avait tous ceux qui avaient marqué sa vie. Fleming, Gabin, sa fille qui
embrasse.
Son mari, oui, mon point trop.
Et ses décorations, racontez-vous également, ses décorations militaires, parce qu'elle vous a avoué une fois qu'elle n'a jamais été aussi heureuse que dans l'armée.
C'est étonnant.
C'est vrai.
En même temps, parce qu'elle servait une cause, elle défendait une cause, et elle était utile à quelque chose. Elle a toujours pensé que le cinéma, c'était quelque chose de très vain. Qu'elle faisait un métier qui lui permettait de gagner beaucoup d'argent, mais qu'en fait, bon, il n'y avait rien d'exceptionnel. Cette déification qu'elle a été heureuse peut-être de subir, finalement, considérait que ce n'était pas tout à fait normal. Par contre, devenir une militaire...
Capitaine de l'armée américaine.
Parce qu'il l'avait mise, évidemment, il donnait un grade au cas où elle aurait été enlevée, elle aurait eu quand même une considération un peu plus grande qu'un simple soldat. Moralité, elle était militaire, elle est allée chanter au front, il faut bien le dire qu'elle chantait au front et non pas à l'arrière. Elle a eu des problèmes énormes pendant la guerre, le froid, les pieds gelés, les mains gelées, et elle chantait en robe du soir, c'est-à-dire qu'elle crevait de froid parce que dans les Ardennes, en plein hiver, on imagine. Mais là, elle a été parfaitement heureuse. Un endroit où elle a été heureuse, c'est la guerre, c'est surprenant, et la cuisine qui était l'endroit où elle était le plus heureuse.
Vous racontez que même quand elle faisait l'amour aux hommes, elle pensait à ce qu'elle allait leur préparer à manger parce qu'ils avaient toujours faim après.
Il lui faisait l'amour parce qu'elle, j'ai l'impression qu'elle subissait plutôt.
Plus qu'autre chose. Deux outils majeurs dans sa retraite forcée, enfin dans sa réclusion, la télévision et le téléphone. La télévision, elle regardait tous les matchs de tennis.
À tennis.
Elle était amoureuse de Björn Borg.
Elle était amoureuse de Björn Borg, surtout dans cette espèce de continuité dans l'effort qui, pour elle, correspondait à une espèce de demi-dieu grec qui ne sentait pas la fatigue. Et comme elle était un peu comme ça sur scène, elle pouvait rester des heures. Elle disait qu'avec Steinberg, elle commençait à 5h du matin et qu'elle finissait à 11h du soir et que les plus belles photos qu'on a fait d'elle, c'était à 23h.
Deuxième outil, téléphone. Et là, vous l'avez subi parce qu'elle vous appelait 50 fois par jour à peu près.
Ah, ça, c'est vrai. Eve Ruggieri a dit un jour dans une interview pour faire rire les gens que quand elle m'appelait au téléphone et si elle ne me trouvait pas, elle tirait un coup de revolver. C'est pas tout à fait vrai. Elle m'avait demandé d'acheter un revolver pour chasser les pigeons comme elle dormait la fenêtre ouverte. Les pigeons entraient quelques fois le matin dans sa chambre. Mais c'est pas ça. Mais en effet, elle a appelé 20 fois. C'est pour ça que c'était « Allô mon ange, vous n'êtes pas là, êtes-vous en ville ?» Parce que c'est toujours ça. Alors bon, je répondais assez vite si j'étais là, sinon « Je vous ai appelé plusieurs fois, vous ne répondez pas. » Oui, les coups de téléphone, mais Marlène le téléphone et elle, ça lui a permis de tenir pendant 15 ans.
Reagan l'appelait, elle appelait la reine d'Angleterre.
Oui, oui, elle appelait tout le monde.
Incroyable.
Elle voulait que j'appelle Mitterrand parce qu'elle l'avait vu au Panthéon avec un pantalon qui était trop court. Et ridicule, tout seul dans ce haut lieu, avec une rose à la main. Mais il n'a pas de tailleur, cet homme. Il faut appeler l'Élysée. Je lui appelle, si vous voulez, moi je ne le ferai pas. Par contre, la reine d'Angleterre, je l'ai fait.
Louis Bezant, elle vous a fait souffrir, mais vous l'avez aimée, et elle vous a aimé aussi, d'une certaine manière.
Je ne sais pas si Marlène m'a aimé. Moi, je crois que personnellement, elle a fait partie de ma vie, d'une vie amoureuse, sans sexe, heureusement d'ailleurs. Et en même temps, je crois qu'elle m'aimait bien, mais qui a-t-elle vraiment aimé ? Gabin,
la question.
Peut-être.
Gabin, c'est ce que vous racontez dans votre livre, et son premier mari aussi, peut-être d'une certaine manière.
Admiré.
Louis Bezant, confident de Marlène Détriche et ami pendant 35 ans. Le livre s'appelle « Allô mon ange, c'est Marlène » chez Michel Lafon. Faites-le avec l'accent, c'est encore plus joli.
Allô mon ange, êtes-vous en ville ? Non, je ne vous dérange pas.
C'est Marlène. Merci Louis Bezant.